Rhume a réalisé un magazine spécial sur les élections municipales 2014 à Lyon. Nous avons notamment interrogé des étudiants lyonnais afin de connaître leur intérêt pour ces municipales. Nous avons également pris le pouls de la campagne 2014 et analysé les enjeux de cette élection avec les journalistes Geoffrey Mercier du Progrès de Lyon et Laurent Burlet de Rue 89 Lyon. Mais dans un premier temps, nous avons rencontré le professeur Paul Bacot de Sciences Po Lyon afin de revenir avec lui sur l'histoire des élections lyonnaises et sur le fonctionnement des municipales.
Qu'est-ce que c'est un peu la particularité des élections municipales ?
Les élections municipales, on pourrait les appeler élections communales d'ailleurs, puisqu'elles se déroulent tout en même temps dans toutes les communes de France. Il s'agit d'élire le conseil municipal, donc l'assemblée de la commune, du village ou de la ville. Le nombre des conseillers municipaux dépend de l'importance de la population. Et le mode de scrutin, la façon dont on vote, dépend aussi du nombre d'habitants. Il y a des systèmes différents selon la taille de la commune. Et s'agissant de Paris, Lyon et Marseille, il y a un système un peu particulier, puisque à Lyon, donc, comme à Paris ou à Marseille, tous les électeurs de la ville ne votent pas ensemble pour élire tous les conseillers municipaux, mais ils votent par arrondissement, à Paris et à Lyon, par secteur à Marseille, mais ça revient même. Et donc dans chaque arrondissement lyonnais, les électeurs élisent une partie du conseil municipal, en somme les représentants de l'arrondissement au conseil municipal. Et ensuite, ce sont tous ces conseillers municipaux élus dans les différents arrondissements qui forment le conseil municipal, qui lui élira le maire et les adjoints.
Alors, d'un point de vue historique un petit peu, est-ce que c'est une élection qui est plutôt appréciée par les Français ? Est-ce que les électeurs se déplacent alors j'imagine que ça doit dépendre des villes, des cantons et tout ça, mais est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez populaire ?
Oui, en règle générale, l'élection la plus mobilisatrice, c'est l'élection présidentielle. Généralement, l'abstention tourne autour de 20%. Après, c'est les élections municipales. L'abstention tourne autour de 30%, avec de grandes variations, et puis une évolution qui va plutôt dans le sens d'une plus grande abstention ces dernières années, mais ce n'est pas forcément définitif comme tendance. Les autres types de scrutins, ce qu'on appelait les élections cantonales jusqu'ici, les européennes, les régionales, même les législatives, ont un taux d'abstention plus important que les municipales.
Alors, est-ce que c'est une élection où on vote pour le parti dont on se sent le plus proche, ou est-ce que c'est plutôt une élection où on va voter pour le maire de notre commune, de quelqu'un qu'on se rapproche? Grosso modo, est-ce que si on est plutôt à droite, on peut quand même voter pour un maire de gauche et vice-versa?
Oui, c'est un peu la grande question. Et c'est effectivement, il y a les deux. Il y a les deux. Les gens de gauche ont plutôt tendance à voter pour liste de gauche. Les gens de droite ont plutôt tendance à voter pour liste de droite. Mais il y a le facteur local. C'est à la fois le facteur des problèmes locaux, des questions locales, et ça ne coïncide pas forcément avec les grands clivages nationaux. Et puis le facteur local, c'est aussi les personnes. Et c'est vrai qu'en général, on connaît les candidats. Ou si on ne les connaît pas dans les grandes villes, on en a beaucoup entendu parler, on voit ce qu'ils font, on voit concrètement dans la ville les réalisations et éventuellement au contraire ce qui n'a pas été fait. Donc c'est vrai que le facteur local joue toujours, mais il y a quand même la dimension partisane et nationale et notamment ces élections municipales sont considérés comme ce que l'on appelle des élections intermédiaires, c'est-à-dire que comme les régionales, comme les cantonales, c'est-à-dire que ce sont des élections qui interviennent entre les grands scrutins nationaux, essentiellement entre les présidentielles. Ici, c'est 2 ans après une présidentielle. Et traditionnellement, en France, mais aussi dans les pays comparables aux nôtres, et ce depuis très longtemps, on observe toujours la même chose. Ces élections dites intermédiaires sont généralement plutôt favorables à l'opposition nationale. Les partisans de la majorité nationale, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, en général, ils sont toujours un petit peu déçus, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Et donc, ils ont tendance à s'abstenir un petit peu. quelquefois même à changer de camp, mais c'est beaucoup plus rare, mais ils s'abstiennent davantage. Alors que les gens qui sont dans l'opposition nationale sont très remontés, bien sûr, très très remontés, ont tendance à se mobiliser. Alors ça peut prendre... Le phénomène est vraiment sûr et certain, il est constant, mais il peut prendre une ampleur plus ou moins grande. C'est l'une des questions de ce scrutin. Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle un vote sanction, ou est-ce que le vote sanction sera atténué par... voire effacé par la dimension locale, effectivement, par l'attachement au maire, par la satisfaction éventuelle du bilan.
Alors pour revenir du coup à Lyon, un petit peu au fonctionnement du scrutin... pour être bien clair, c'est possible par exemple qu'à Lyon, un des candidats soit minoritaire en nombre de voix, mais soit élu si y a plus d'arrondissements qui basculent d'un côté ou de l'autre.
Alors c'est un peu compliqué, mais c'est vrai. Dès l'instant où tous les électeurs ne votent pas tous ensemble pour élire l'ensemble d'une assemblée, d'un conseil, c'est-à-dire dès l'instant où il y a un découpage, dès l'instant où il y a un découpage électoral, il peut y avoir ce genre de phénomène. Certes, la distribution des sièges de conseillers municipaux est très correcte, elle est proportionnelle à la population des arrondissements. Chaque arrondissement a droit à un certain nombre de conseillers municipaux en rapport direct avec la population de l'arrondissement. Ça a été mis à jour récemment, il y a aucun problème de ce côté-là. Simplement, comme c'est un scrutin à dominante majoritaire, c'est-à-dire que la liste majoritaire remporte une bonne partie des sièges. En gros, pour faire très vite, dans le mode de scrutin pour les municipales, pour les villes, avec 50% des voix, vous avez 75% des sièges. Donc, il est évident que dans un arrondissement donné, vous pouvez bénéficier de cette prime à la majorité avec un très faible écart de voix, comme vous pouvez en bénéficier avec un très gros écart de voix. Et donc, il y a un décalage entre les résultats en voix et les résultats en siège.
On peut faire un rapide retour historique un petit peu sur l'élection municipale à Lyon, un petit peu dans l'histoire, quel a été déjà le premier maire de Lyon et un petit peu comment ça s'est déroulé au fur et à mesure des époques.
Depuis l'instauration du système républicain moderne, c'est-à-dire depuis la Troisième République, quoi, en gros, depuis un peu plus d'un un bon siècle, presque et demi maintenant, on a eu un certain nombre de maires qui se sont succédés, pas énormément, d'ailleurs pas un très grand nombre, car certains d'entre eux ont bénéficié d'une assez grande longévité. Celui qui est resté le plus longtemps, et qui est le plus connu, c'est Édouard Herriot, bien sûr. Édouard Herriot, qui est resté en gros un demi-siècle au fauteuil de maire jusqu'à sa mort en 1957.
Qui a donné son nom à peu près à toutes les écoles et à tous les
structures. Et oui, bien sûr, parce qu'il a complètement transformé la ville déjà à l'époque. Hein, pas tellement après la guerre, mais avant la guerre. Dans l'entre-deux-guerres, ça a été effectivement un grand bâtisseur, un grand constructeur, hein, l'hôpital Édouard Herriot, les abattoirs, les actuels Altony Garnier, hein, etc., etc.
Et alors donc, politiquement,
il était radical socialiste, il a même été président du parti radical, il a été chef du gouvernement, il a été président du conseil, comme on disait à l'époque, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été membre de l'Académie française, il a été X fois ministre, c'est un personnage très, très important dans la vie politique française. Et il était radical. Alors, selon les époques, le parti radical était franchement à gauche, ou dans une position un peu plus centriste, voire un petit peu à droite. Mais enfin, en gros, ça nous faisait, du moins au départ, une municipalité à gauche. D'ailleurs, ses prédécesseurs étaient de gauche. Et puis petit à petit, ça s'est un petit peu droitisé, centrisé. À sa succession en 57, c'est Monsieur Pradel, Louis Pradel, qui a été élu, qui passe aujourd'hui pour avoir été un maire de droite. Et en gros, effectivement, il s'est appuyé sur une majorité de droite, très nettement, et il a affronté la gauche à la fin. Mais au départ, il avait été élu en 1957 par les communistes, les socialistes et les radicaux, contre la droite.
D'accord. Et alors, historiquement, quand même, donc si on passe après Pradel, c'est quand même souvent resté des maires de Lyon Donc tendance gauche ou droite, assez proche du centre quand même. Ou est-ce qu'il y a eu vraiment des moments un petit peu plus prononcés au niveau politique?
Alors, à la fin, Pradel, c'était l'union de la droite, pratiquement. Et son successeur, Francisco Colomb, c'était franchement l'union de la droite contre la gauche. Michel Noir, c'est un des leaders de la droite nationale, sans aucun doute là-dessus. C'était le RPR à l'époque. Raymond Barre, également un leader de la droite, tout à fait côté UDF cette fois-ci, comme on disait à l'époque. Hein. Donc effectivement, jusqu'à l'élection de Gérard Collomb en 2001, il y a plusieurs décennies de mairies de droite à Lyon.
Et comment ça se fait que ça a évolué comme ça, alors du coup, vers une population lyonnaise qui a plus souvent choisi un maire de droite? Ça s'explique un petit peu par les mouvements de population qu'il a pu avoir, par...
Le glissement à droite de Lyon dans les années 50 et 60 est dû notamment à des phénomènes d'urbanisme. Il y a des quartiers populaires qui se sont vidés, des catégories entières de la population qui ont été, transplantées à Vénissieux, à Beaux-en-Velin, dans les périphéries populaires. Hein. Et donc la composition de l'électorat de la ville de Lyon a changé d'une façon plutôt favorable à la droite. Et puis dans la période plus récente, le passage aux socialistes avec Gérard Collomb s'explique pour une part à une nouvelle évolution, mais qu'on retrouve dans beaucoup de grandes villes en France. Si la plupart des grandes villes sont gérées par la gauche, c'est pas par hasard. C'est parce que les grandes villes ont une certaine population, ni trop riche ni trop pauvre, plutôt de classe moyenne, souvent de profession intellectuelle, artistique, d'encadrement, des fonctionnaires, des cadres, etc.
Qui ont tendance à plébisciter la gauche.
Qui sont plutôt la clientèle électorale de la gauche depuis quelques décennies, oui.
Alors, est-ce qu'il y a eu des élections ces dernières années, enfin ces dernières décennies, on va dire, à Lyon, particulièrement serrées? Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des choses qui sont jouées plus qu'à d'autres?
Ah oui, il y a toujours eu de gros enjeux, parce que quand la ville était assez nettement à droite, quand on se posait pas trop la question de savoir si ce serait la droite ou la gauche, la droite souvent a été très divisée, et j'allais dire méchamment divisée. Monsieur Barre a conquis la mairie contre une autre liste de droite. Monsieur Noir a aussi conquis la mairie dans des conditions pas forcément faciles. Donc il y a eu des... Et d'une certaine façon, si l'élection de Gérard Collomb en 2001 est due, comme on le disait, à des évolutions dans la population, c'est aussi dû à la division de la droite qui était très forte à ce moment-là. Donc il y a toujours eu des enjeux, ou très souvent des enjeux à droite. Si on remonte plus loin dans le temps, il y avait des oppositions entre gaullistes et non-gaullistes. Le parti gaulliste, au début des années 60, a essayé de prendre la mairie de Lyon. Ça a été un échec. De la prendre au reste de la droite, en somme, à la droite non-gaulliste, comme on disait. Donc il y a toujours eu ces enjeux. Et puis, quelques temps, la gauche est revenue dans le circuit, en quelque sorte. Et effectivement, l'enjeu, c'était est-ce que la gauche allait prendre la mairie en 2001, est-ce qu'elle allait la garder en 2008, et maintenant, est-ce qu'elle va la garder en 2014?
Et alors, est-ce que historiquement, il y a des arrondissements qui restent tout le temps ancrés à droite et d'autres tout le temps ancrés à gauche, et d'autres qui font la bascule? Comment ça se passe un petit peu? Comment ça s'est passé?
Ça dépend comment on remonte. Donc, ce vote par arrondissement date, les premières élections qui ont fonctionné comme ça, c'est 1965. Hein. C'est 1965. Il fut un premier... Dans un premier temps, tous les arrondissements ont voté pour M. Pradel et ses listes de droite et du centre. Hein. Et puis, petit à petit, assez vite même, il y a des arrondissements qui se sont détachés dans les années 70. Les deux principaux qui, depuis, sont toujours restés à peu près à gauche, c'est le 8e et le 9e arrondissement. Le premier arrondissement les a rejoints. C'est là les trois bastions. Après, le 4e, le 7e sont quand même relativement solidement ancrés à gauche. Le 3e est beaucoup plus disputé. Est beaucoup plus disputé, et comme c'est le plus gros arrondissement avec le plus de sièges à pourvoir, l'enjeu est de taille. Et puis il y a le 5e arrondissement, qui est également très disputé, et c'est sans doute vers lui qu'il va falloir regarder dimanche soir, prioritairement, parce que le 5e arrondissement, donc, hein, c'est Fourvière, le vieux Lyon, Fourvière, et tout l'ouest de la ville. Et c'est un arrondissement qui avait voté lors des précédentes municipales pour la gauche, avec un maire d'arrondissement socialiste. Mais c'est un arrondissement qui a voté majoritairement Sarkozy à la dernière élection présidentielle. Et donc la question, effectivement, c'est de savoir ce qui va se passer cette fois-ci, sachant que le 5e arrondissement, c'est l'arrondissement dans lequel se présente en tête de liste M. Havard, qui brigue la mairie contre Gérard Collomb. Mais Gérard Collomb a allumé quelques contre-feux avec, dans sa liste, des personnalités qui sont susceptibles de mordre à droite ou au centre, comme on dit, hein, comme par exemple le professeur Jean-Dominique Durand, qui est une personnalité importante à Fourvière et qui est de nature à impressionner favorablement une partie de l'électorat, disons, catholique du 5e arrondissement. La vraie question, oui, c'est les effets de ce qui s'est fait autour du mariage pour tous et après le mariage pour tous, puisque Lyon a été vraiment une ville-centre de ce point de vue-là. La dernière grande manifestation, c'était Paris et Lyon. Un certain nombre de leaders étaient lyonnais. Ça rejoint, évidemment, on sait bien que ces manifestations se sont produite essentiellement, concrètement, sur la base d'un réseau catholique, d'un réseau de l'Église, qui est évidemment à Lyon extrêmement installé, extrêmement puissant. On peut penser que cela aura généré une certaine mobilisation, peut-être plus forte à droite, que ce qu'elle aurait été sans cela. C'est difficile là encore à dire, ça sera difficile à apprécier.
Beautiful moments and go and live like a bird and
Claudia de l'Œil du Vendredi a réalisé un reportage autour de la perception qu'ont les étudiants des élections municipales.
Entre arrivée des beaux jours et reprise des cours, beaucoup d'étudiants sur le campus universitaire de Bron ont plutôt en tête l'envie de finir leur année scolaire avec succès. Alors quand on leur pose la question « Que vous inspirent les municipales ?», beaucoup bottent en touche, mais la plupart iront voter pour diverses raisons.
Les municipales, pas grand-chose. Je ne suis pas très au courant de tout ce qui est municipal. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait.
Pourquoi ?
Je trouve que la politique, c'est un monde qui est trop corrompu.
Les municipales, encore, c'est déjà un peu plus intéressant que le reste, mais c'est la politique en général qui me dégoûte et me intéresse. Même si je m'y intéresse énormément dans les actualités et tout ça, je suis vraiment tout. Après, je ne voterai même pas ni aux présidentielles, ni aux futures législatives, ni même aux européennes, tout simplement, parce que c'est pas forcément contestataire, parce que voilà, mais il n'y a pas de vote blanc, on peut même pas dire qu'on est contre.
Pas grand chose. Je sais qu'il faut aller voter parce qu'on est quand même citoyen, aller donner sa part, voilà, histoire d'avoir une bonne conscience, on va dire. Mais j'ai l'impression que c'est déjà tout, puis même, enfin, déjà tout fait. Même si on donnera un vote, on sait que c'est pas peut-être pas notre vote qui va changer la donne, quoi. Déjà ça. Et c'est pareil, enfin, on n'est pas assez informé.
Bah un peu pareil, genre. Moi, j'y connais pas grand-chose à tout ça. Enfin, encore moins les municipales. Toutes les autres élections, je vois ce que c'est. Et les municipales, pour moi, c'est un peu flou. Et pareil, j'ai pas été beaucoup renseignée. Enfin, genre, j'ai pas beaucoup eu de prospectus dans mes boîtes aux lettres et tout. Donc voilà, par contre, je vais essayer de me renseigner quand même et d'aller voter aussi. Parce que c'est pareil, c'est la première fois que je vais voter. Mais donc, pour l'instant, je sais pas trop.
Grand-chose non plus.
Pourquoi ?
Bah, parce que là, les programmes sont quasiment les mêmes. Puis je sais pas si vraiment ça va changer quelque chose. Le candidat, la seule alternative qu'il y a, c'est le FN. Et du coup, c'est pour ça que ça m'inspire pas grand-chose.
Les jeunes et la politique, c'est un peu « je t'aime moi non plus ». Mais pour lutter face à ce désintérêt politique des étudiants, Mathieu Garcia Messa, représentant de l'Union nationale des étudiants de France, située à Lyon, tire la sonnette d'alarme.
Nous, on lutte énormément contre la montée des extrêmes, enfin, contre la montée de l'extrême droite. On essaye de communiquer pas mal là-dessus. Il faut aller voter, peu importe de quel parti vous votez, mais il faut voter pour empêcher le Front National de faire des scores, parce que ce qui fait monter le Front National aujourd'hui, c'est l'abstention. Et l'abstention, c'est clairement c'est un danger pour la République.
Alors si certains ne s'intéressent pas aux élections municipales ou iront voter par défaut, d'autres ne veulent pas baisser les bras. Installé sur deux tables non loin de la bibliothèque universitaire de Bron, Matteo Jules, étudiant et inscrit sur la liste du Front de gauche du 8e arrondissement de Lyon, s'engage corps et âme pour redonner aux étudiants le goût de la politique.
Bah là, pour l'instant, en fait, on tient une table, donc on montre nos propositions, on essaie de prendre des contacts avec des gens pour s'ils ont envie d'être informés pour la suite de la campagne ou pour nos autres actions. Et en fait, on vient là parce qu'on pense que les jeunes sont très dépolitisés. Ça s'est vu avec les élections à Lyon 2, avec seulement 2300 votants sur 28 000 étudiants. Donc on pense que c'est un terrain où il faut redonner de la conscience politique aux jeunes, quoi.
Pour François Alfondari, chargé de cours en sciences politiques à Lyon 2, il n'y a pas un désintérêt des jeunes de la politique, mais plutôt une forme d'expression qui ne leur conviendrait pas.
Il y a une enquête sur les jeunes là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y en a plein qui seraient prêts, je ne sais plus combien exactement, mais un certain nombre qui seraient prêts à refaire un mai 68. C'est-à-dire que peut-être qu'aussi l'engagement politique et la politisation, elle passe par ça, par la mobilisation collective. Donc il n'y a pas un désintérêt total. Je pense que les jeunes sont conscients que la politique, ça existe, que c'est important, mais peut-être que le biais du vote, ça ne marche pas et qu'ils cherchent autre chose.
Nous avons interrogé le journaliste politique Geoffrey Mercier du Progrès de Lyon sur cette élection municipale 2014. Quels sont un peu les grands enjeux de cette élection, justement, 2014 ? Qu'est-ce qui peut vraiment faire basculer les choses, vous pensez ?
Alors, faire basculer les choses, je ne pense pas que ce soit un élément. Une campagne, c'est une histoire qu'on raconte, c'est une petite musique. Alors, pris indifféremment, chaque élément de la campagne, donc ça peut être, par exemple, une tête de liste, c'est un projet fort. Pris individuellement, je ne suis pas sûr que ça fasse... que l'électeur se détermine. Mais c'est l'ensemble des choses. C'est l'image que peut renvoyer le candidat, c'est l'image que peut renvoyer le programme du candidat. Et tout ça, mis bout à bout, raconte une petite histoire. Et c'est comme ça que l'électeur peut être en confiance et peut se dire, voilà, je peux miser sur cette personne-là. Alors voilà, je ne suis pas sûr que ce soit un élément précis. Après, il y a un enjeu majeur, mais qui ne sera pas déterminant dans le choix des électeurs, c'est la perspective de la mise en œuvre de la métropole au 1er janvier 2015. Alors, la métropole, je vais la rappeler, c'est la fusion du Grand Lyon, aujourd'hui qui compte 58 communes, et du Conseil général. Donc, le Conseil général va disparaître. C'est une première en France, au profit de cette nouvelle collectivité locale qui s'appelle la métropole et qui va donc prendre les compétences sociales du Conseil général. Et le Conseil général du Rhône va donc rester uniquement sur l'actuel département du Rhône, moins les 58 communes du Grand Lyon. Donc, 1er janvier 2015, le président du Grand Lyon, qui sera élu juste après le maire de Lyon, sera également président de cette métropole avec un chantier incroyable à mettre en œuvre. C'est cette fusion vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore en France.
Et alors, tout ce qui se passe en ce moment au niveau national, à l'échelle nationale un petit peu, notamment avec les affaires, est-ce que ça peut jouer, vous pensez que ça peut se répercuter sur l'élection qui va se passer à Lyon?
Oui, écoutez, vous avez absolument raison de poser la question. C'est très difficile de savoir, surtout, surtout à Lyon et surtout pour un scrutin municipal, qui par essence est un scrutin local. On se détermine vraiment pour la proximité, pour le maire. Gérard Collomb, puisque c'est lui qui est aux manettes de la ville depuis 13 ans, les Lyonnais le connaissent comme un maire de proximité. Alors Michel Avard, l'UMP-UDI, qui est moins connu, mais par exemple ici, nous sommes dans le 5e arrondissement. Il est élu depuis très longtemps ici. À 27 ans, il était déjà adjoint dans le 5e arrondissement. On est sur la proximité. Donc c'est vrai que les étiquettes vont moins jouer. Néanmoins, il y a un certain nombre d'électeurs qui sont nouveaux dans la ville et pour lesquels, effectivement, voter pour un candidat PS, un candidat UMP, un candidat FN ou Front de Gauche, écologiste, etc., sera une certaine résonance. C'est la raison pour laquelle, également, Gérard Collomb a bien pris soin de dissimuler toute référence au Parti socialiste. Vous ne trouverez pas sur ses affiches ni un logo PS, ni une seule référence au PS, compte tenu de l'ambiance aujourd'hui du parti qui est au gouvernement. Lui joue vraiment sur la carte locale et ne veut surtout pas en faire un débat de politique nationale. Alors après, comment les électeurs vont se déterminer? Il y a des études, il y a des sondages qui montrent effectivement qu'une partie de l'électorat pourra se déterminer en fonction de la couleur politique des candidats. J'en suis pas tellement persuadé, ou en tout cas la marge. Mais la marge, ça peut suffire pour faire basculer une élection.
D'accord. Alors, on va faire un petit retour rapide, justement, un petit peu sur ces deux mandats de Collomb. Pour vous, en tout cas, en tant que journaliste politique, on va dire les plus et les moins, pour faire bref.
Pour Gérard Collomb, il y a eu des marqueurs forts en termes de programme. Alors, c'est vrai qu'on pense, par exemple, à Vélov. Après, on ne construit pas une ville avec Vélov. Mais Vélov, c'est assez emblématique de la politique de Gérard Collomb. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'innovant, puisque ça n'existait pas avant. Même Paris l'a copié par la suite. Ça répond à un dispositif de mobilité. C'est un dispositif qui n'est pas polluant. Donc, ce n'est pas Vélov en soi qui est un projet majeur et absolument déterminant. Mais il reflète bien l'ambiance du premier mandat de Collomb de 2001. Après, on a eu les Berges du Rhône, qui allait également dans cette perspective-là. Et puis, sur le deuxième mandat, on était davantage sur des projets urbanistiques, parce qu'effectivement, le premier mandat permet de les penser et le deuxième mandat permet de les réaliser. Donc on pense évidemment au quartier de la Confluence, alors qui avait été initié par le prédécesseur de Gérard Collomb, qui était, on le rappelle, Raymond Barre, qui avait lancé des études dès 1997-99, et dans lequel et Gérard Collomb a poursuivi dans cette voie-là pour faire le quartier, alors qui est loin d'être achevé, que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a ces trois projets un peu importants, un peu marqueurs, voilà, du projet de Gérard Collomb.
Et alors, le regard des Lyonnais, justement, sur notamment la Confluence, vous pensez que c'est plutôt positif? C'est quelque chose quand même qui plaît aux gens qui habitent à Lyon?
Écoutez, ça, c'est difficile de le percevoir parce que, par exemple, parce que nous, au Progrès, on a été les premiers à Confluence. Nous y sommes depuis, je crois, 2007. On a tout vu se construire. Donc, nous, on y est depuis le début. Donc, on a presque du mal à avoir du recul par rapport à ce quartier qui est encore très neuf pour les Lyonnais. Je crois que les Lyonnais sont quand même plutôt fiers, même si je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie d'y vivre. Parce que bah, c'est vrai que la densité est quand même forte. Il n'y a pas de métro. Aujourd'hui, on a encore quelques difficultés pour circuler. Et puis, il y a encore beaucoup de travaux parce qu'il y a encore tout un îlot à réaliser. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu idéal pour habiter. En tout cas, je pense qu'ils peuvent ressentir une certaine fierté puisque quand on voit des reportages à la télévision ou dans des magazines nationaux, voire internationaux sur Lyon, eh bien, c'est souvent Confluence qui ressort. Et c'est cette manière-là que Lyon est mise en avant sur ce nouveau patrimoine architectural. Donc je ne pense pas que les Lyonnais soient hostiles. C'est la ville qui s'agrandit, c'est la ville qui se poursuit jusqu'à son extrémité, jusqu'à l'extrémité de sa presqu'île. Alors après, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit un critère déterminant pour porter sa voix sur Gérard Collomb, mais voilà, c'est ce marqueur, Gérard Collomb bâtisseur, il aimerait qu'on se souvienne de lui comme ça, en tout cas, ou au moins comme ça. Effectivement, ce quartier-là porte sa patte. Le prochain mandat, si tant est qu'il soit élu, alors il y aura effectivement la suite de Confluence, mais il y aura surtout le renouveau du quartier de La Part-Dieu avec la réalisation d'une nouvelle gare qui aujourd'hui est complètement saturée, je pense que tout le monde s'en rend compte, avec l'élévation de nouvelles tours et la mise en œuvre également d'un nouveau quartier articulé autour de bureaux, mais également autour de logements. Et par exemple, la rue Garibaldi, qui est en train de prendre forme, et bien dessine ce projet de ville dans le 3e arrondissement.
On a pas mal parlé de Gérard Collomb. On va faire un petit zoom un petit peu sur Michel Avard. On en parlait tout à l'heure, que c'est donc un élu aussi depuis longtemps à Lyon, qui était bien implanté ici. Vous pouvez comme ça aussi rapidement nous faire un petit peu un petit topo sur cette personnalité, sur son lien avec Lyon et les Lyonnais.
Alors Michel Avard, il a 46 ans, c'est-à-dire 20 de moins que Gérard Collomb. C'est d'ailleurs la subtilité de sa baseline, quoi, de sa phrase de campagne qui est Génération Lyon, ce qui permet en termes de politique de ne pas dire que Gérard Collomb est trop âgé, mais de dire que c'est quand même une nouvelle génération qui arrive. Donc il a 46 ans, il est diplômé de Sciences Po à Lyon, il a fait un DEA de droit européen, il a collaboré avec des élus à l'époque du RPR, notamment avec Henri Chabert, puis il a travaillé dans le privé, dans des grands groupes privés. À 27 ans, je vous le disais tout à l'heure, il a été élu adjoint au commerce dans le 5e arrondissement de Lyon, il a été conseiller général du 5e, il a été député de la première circonscription, qui comprend le 5e arrondissement, le 9e, une partie du 2e, etc. C'est un mandat qu'il a perdu lors des dernières législatives contre Thierry Braillard, mais il était en tête dans le 5e arrondissement, ce qui peut le laisser penser qu'il pourrait récupérer cet arrondissement aujourd'hui détenu par la gauche. Voilà pour le côté un peu formel sur Michel Avard. Donc ça fait 6 ans, il a reçu un peu les clés de la ville, enfin les clés de l'opposition en tout cas de Dominique Perben il y a 6 ans, après la défaite de 2008. Et puis il a porté cette opposition depuis toutes ces années, alors de manière un peu timide, on va dire un peu molle. C'est-à-dire que Michel Avard, on disait toujours de lui que c'était un garçon charmant, mais on attendait de lui un peu plus de hargne, de pugnacité, et ça tardait un peu à arriver. Mais sa détermination à être maire de Lyon a toujours été intacte. Il a toujours nourri cette ambition. Et cette campagne, il la prépare, en tout cas dans son esprit, depuis un certain moment. Alors d'autres lui ont disputé le leadership, Denis Brodiquier, Emmanuel Almelin, Nora Béra, jusqu'à Georges Fenech. Et donc c'est la raison pour laquelle, en juin dernier, ont été organisées des primaires de l'UMP. Et il a gagné ces primaires de l'UMP. Et ça lui a fait, ça a été intéressant pour lui parce que ça lui a fait une petite course d'essai, quoi. Ça lui a fait un petit galop d'essai. Et bah, il s'est aguerri petit à petit. Moi, je sais que j'ai animé des débats, notamment, je pense, un débat sur France 3 avec Michel Avard, voilà, qui était un peu timoré. Et c'est vrai que le plateau était accaparé par ses adversaires. Et puis, eh bien, c'est lui qui a gagné ces élections-là. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il s'est entouré, il s'est plutôt pas mal entouré. Et puis, il a lancé sa campagne. Et on doit dire qu'elle a plutôt bien pris cette campagne, c'est-à-dire qu'à la fois sur ses éléments programmatiques et puis sur la manière dont il mène sa campagne, que ce soit dans les rues ou dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, écoutez, on peut dire que Michel Havard fait plutôt une bonne campagne et puis qu'il a fendu l'armure, c'est-à-dire qu'il a endossé effectivement le costume du candidat. Alors, pas encore celui du maire, on ne sait pas si ce sera suffisant. Mais effectivement, Michel Havard a des arguments à faire valoir et Michel Havard n'a pas perdu la campagne, contrairement à ce qu'on dit. Effectivement, le favori, c'est Gérard Collomb, mais il faudra que le cinquième bascule, ce qui est une éventualité, une probabilité. Il faudra que le troisième bascule, alors ce qui est plus difficile, mais enfin, ce qui n'est pas non plus inenvisageable. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Donc, Michel Havard n'a pas perdu cette élection. En tout cas, il est en piste pour 2020. Alors, c'est dans 6 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà. Alors, le rapport de Michel Havard avec cette ville, effectivement, c'est un rapport assez étroit. Il avait, quand il était député, l'occasion de prendre d'autres responsabilités nationales. Il ne les a pas prises. Il a été secrétaire national en charge des fédérations. Il a lâché ce mandat-là à l'UMP pour être plus près de sa ville.
Il a joué une carte locale, quoi, du coup.
Voilà, pour jouer cette carte locale, il entretient, c'est vrai, une vraie proximité avec les électeurs. Il a un bon contact, mais j'allais dire que comme Gérard Collomb sait le faire, et peut-être encore mieux encore, parce qu'il a cette expérience que Michel Havard, lui, n'a pas encore. Mais Michel Havard, il a le profil. Il a le profil lyonnais, en tout cas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que Lyon n'a jamais élu ni un maire de gauche ni un maire de droite depuis un siècle. C'est vrai que depuis Édouard Herriot, même Michel Noir, il était plutôt dans les réformateurs. Je ne suis pas sûr que Gérard Collomb soit un maire de gauche. Moi, je ne trouve pas les marqueurs, même sociétaux, de la gauche chez Collomb. Et je ne trouvais pas les marqueurs de droite, comme par exemple voilà, Georges Fenech, qui voulait être maire de Lyon. Il n'avait clairement, pour moi, pas le profil d'un maire de Lyon. Michel Havard rentre complètement dans ces cases-là, oui, dans ce modèle lyonnais.
Moi, je fais le contraire de ce que je propose aux autres. Elle avait trop froid au cœur, elle s'en est allée faire des ronds dans l'eau, autant dire le ciel. Ce qui existait existe toujours. C'est un drame de part avec moi. Elle a des yeux comme le lac bleu, des épidermes de grâce. Ne secouez pas, ce qui a existé existe toujours. Ce qui a existé existe toujours. Ma baby left me. Ma baby left me. Ma baby left me. Est-ce que je pleure? Est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'aux larmes je suis condamné? Elle est partie, mais je la vois encore crever. C'est comme baiser. C'est pas parce qu'on a envie qu'il faut le faire tout de suite. Il n'y a que deux sortes d'histoires d'amour. Le garçon perd la fille. La fille perd le garçon. Je suis fixé sur mon sort. Une bague en or blanc, un nom inscrit dedans. Ma baby left me. Ma baby left me. Ma baby left me. Ma baby left me. Fin. Le premier des deux qui crève attend l'autre. Tu m'avais prévenu, mais je ne t'ai pas cru. Migraine, la tristesse durera toujours. Une fille de brève joie.
on the end of Walnut Street in Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a place to dwell. Down on the end of Walnut Street in Heartbreak Hotel. Since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down on the end of Walnut Street, it's called Heartbreak Hotel. My baby left me, oh my baby left me, never said a word. My baby left me, never said a word.
Nous avons également évoqué les enjeux de cette élection municipale 2014 à Lyon avec le journaliste de Rue 89 Lyon, Laurent Burlet.
Je dirais qu'une élection n'est jamais jouée d'avance, mais effectivement, si on en croit ce qu'on voit dans la rue et différents sondages et autres choses, les électeurs ont tendance certainement à privilégier un vote, je dirais, de la stabilité. Et donc voter pour le maire sortant, Gérard Collomb, qui se présente pour la troisième fois, qui se présente pour un troisième mandat. Depuis 2001, il est maire. Et effectivement, la dernière fois, il avait écrasé la droite, c'était Perben en 2008. Cette fois-ci, la concurrence est un peu plus rude. Mais il y a quand même de fortes chances pour qu'il soit réélu.
Ça peut se jouer sur quel arrondissement plutôt, s'il y a une bascule éventuelle?
S'il y a une bascule éventuelle, ça peut se jouer à la fois sur le 5e et sur le 3e arrondissement. Donc le 5e arrondissement, vu que c'est une élection par arrondissement, donc tout doit jouer par arrondissement. Et dans le 5e arrondissement, c'est là où Michel Havard se présente. C'est là où il a été élu jusqu'en 2012, donc 2007 à 2012, député. Donc c'est un peu son fief, et effectivement il y a eu quelques sondages qui le donnaient gagnant là-dessus. Sauf que pour gagner les élections municipales à Lyon, il faut remporter plusieurs arrondissements. Bon, en tout cas avoir un certain nombre de conseillers municipaux par arrondissement. Donc lui, il aura certainement le 2e arrondissement, le 6e arrondissement, qui ont toujours voté à droite. Peut-être le 5e, et il faudrait qu'il emporte énormément de voix dans le 3e arrondissement, l'arrondissement le plus peuplé. Donc ça va jouer dans ces deux arrondissements, mais ça va être compliqué quand même.
Alors quels ont été un petit peu les grands thèmes de cette campagne, on va dire, par rapport à celle de 2008 ou des précédentes? Qu'est-ce qui est ressorti un petit peu?
En fait, si on parle au passé, mais ça peut encore bouger dans les prochains jours, parce qu'il y a encore une semaine. Mais en gros, il y a eu la thématique des transports. Donc Michel Havard, il a tout de suite attaqué en disant moi, il me faut un métro de la gare Saint-Paul jusqu'à la Part-Dieu. Collomb, au début, a dit non, c'est pas possible, etc. Mais il a quand même répliqué avec un projet de métro, pareil, du 5e, mais cette fois côté Vieux-Lyon-Saint-Jean, pour rejoindre l'Ouest lyonnais. Donc il y a eu cette thématique des transports, et puis aussi celle des impôts, où Havard a fait la promesse qu'il ne voulait pas augmenter les impôts. Collomb a dit, mais si on veut continuer les investissements, il faudra augmenter les impôts. Donc il y a vraiment eu ces deux thématiques. Et là, s'en est rajouté depuis une petite semaine, puis même quelques jours, les derniers jours, la problématique de la pollution, l'environnement aussi.
Ce qui se passe au niveau national, comment ça se répercute à Lyon?
À Lyon, on ne sait pas trop. Enfin, c'est difficile de dire comment ça va se répercuter. On a coutume de dire qu'une élection locale est vraiment déconnectée de la problématique nationale. Je pense que là où ça va se jouer, c'est que surtout à Lyon, il va y avoir une forte poussée du Front National, comme de partout. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils auront un maire d'arrondissement, mais en tout cas, c'est possible que le Front National fasse son retour au conseil municipal. Ça, c'est la première chose, parce que justement, il y a une forte poussée du FN nationalement.
Et dans quels arrondissements, plutôt?
Plutôt dans le 8e et le 9e arrondissement. Donc le chef de file du FN au niveau local, même départemental, Christophe Boudot, se présente comme tête de liste dans le 8e. Donc là, il y a des chances pour qu'il fasse un bon score aussi là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau national. Effectivement, il y a quand même une forte impopularité de l'exécutif Hollande-Hérault. Et c'est possible que certains électeurs aient envie de sanctionner le PS, donc par conséquence Collomb. Alors Gérard Collomb, le maire de Lyon, fait tout son possible pour ne pas être présenté comme un socialiste.
En mettant pas le logo.
Mais pas le logo, jamais aucune référence au socialisme. Il a demandé à ce que, explicitement, hein, à ce qu'il n'y ait pas de ministre qui vienne soutenir sa campagne, comme ça se fait souvent, voilà, les élections locales, les ministres descendent de Paris et puis ils viennent faire leur tour. Donc voilà, il y a plein de choses et à chaque fois, il essaye de faire oublier ça. En 2008, ça avait marché parce que c'est très clairement après l'élection de Sarkozy en 2007, des gens de droite qui ont voté pour lui. Il a fait une sorte d'ouverture parce que son premier adjoint est Richard Blum est connu pour être un homme de droite. Donc voilà, il a réussi à faire presque oublier sa qualité de socialiste, sa carte au PS, même si Michel Havard fait tout pour lui dire pour dire que c'est bien un socialiste, quoi.
Et alors du coup, justement, au niveau de Gérard Collomb, son bilan alors du dernier mandat, mais même depuis qu'il est maire de Lyon, qu'est-ce qui va en ressortir à ton avis de positif et de négatif, un petit peu des grands traits des mandats de Collomb, quoi?
Bah, ce qui ressort en gros de positif, c'est les aménagements des fleuves. Enfin, des fleuves, des cours d'eau. Donc le principal, forcément, c'est le Rhône. Il a fait les berges du Rhône. C'est comme ça, clairement, qu'il a été élu, réélu en 2008. Il est très simplement allé dans la rue. Il a fait une photo avant, après. Avant, c'était un parking plein de bagnoles. Après, c'était une promenade. Les gens qui boivent des coups à la terrasse des péniches, etc., etc. Et il a réussi à prendre le 3e arrondissement. Et il a été élu comme ça au premier tour. Là, en 2014, il a fait la moitié des rives de Saône. C'est aussi quelque chose qu'il met en avant, même si ça touche moins le centre-ville de Lyon. Donc il y a plein d'aménagements qui ont impacté directement la qualité de vie des Lyonnais, les vélos, les pistes cyclables, les différents aménagements urbains, le parc Sergent Blandan, même s'il est fait qu'à moitié, la rue Garibaldi. Donc sur la qualité de vie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est difficile de dire, c'est négatif, puisque mis à part ceux qui vont venir de l'Ouest lyonnais en voiture, mais à la rigueur, ils votent pas sur Lyon, les Lyonnais intramuros ont plutôt une qualité de vie qui s'est améliorée. Ça, c'est le côté positif des choses. Dans l'aspect négatif, et c'est ce qui explique aussi la présence à sa gauche d'un certain nombre de listes, une liste écolo, une liste front de gauche, Gram, c'est-à-dire Nathalie Perrin-Gilbert dans le premier. Il a tellement fait oublier sa qualité de socialiste, il s'est tellement positionné à la droite du Parti Socialiste que certains estiment qu'il est plus au centre, voire à droite, que véritablement à gauche. Donc résultat, c'est possible aussi que sur la question de l'immigration, sur la question des logements vides...
Sur la montée aussi des groupes d'extrême droite, un peu à Lyon, dont on parle depuis des années. Quand
sur
même,
la montée, effectivement, sur la montée des groupuscules d'extrême droite, c'est autant de prise d'opposition, ou en tout cas d'absence de prise d'opposition sur ces sujets-là, qui ont mécontenté un certain nombre de personnes. Ensuite, on le verra justement lors de ces élections, en mars 2014, si ça se transmet dans les urnes, quoi.
Alors, juste sur un petit regard sur les autres villes un petit peu autour de Lyon, de l'agglomération, il y a avoir des surprises, des bascules dans certaines villes autour.
Alors, il peut y avoir des bascules. Alors, autant des bascules qui profitent à la droite, parce qu'il y a la désunion de la gauche, donc des guerres fratricides à Bron, à Rieux-la-Pape, un petit peu à Décines. Il faut surtout retenir Bron, effectivement, et Rieux, où là, le PS part divisé. Et puis aussi, il y a une ville qui est très intéressante, c'est la troisième ville du département, c'est Vénissieux, où pour la première fois, il y a un élu PS qui part contre la maire sortante communiste, quoi. Et cette maire sortante, elle s'était présentée en 2012 aux législatives, elle avait largement perdu face au candidat PS qui était élu député. Donc il y a des chances pour que ce soit un socialiste qui passe. Ça veut dire que ce serait la fin d'un des principaux bastions historiques du PC, même au niveau national, quoi. Bastion orthodoxe, certains le qualifiant de stalinien. Donc ça, c'est vraiment important. Après, dans les autres communes de l'Ouest lyonnais, les plus petites communes, il y a des incongruités du genre à Francheville, où là, ça a toujours été un maire... Ça fait très longtemps que c'est un maire socialiste, René Lambert, sur une terre de droite. Donc, avec le contexte national, justement, de des amours, c'est possible que ça bascule aussi. C'est possible que ça bascule aussi à droite, quoi. Mais sinon, il y a aussi donc forcément le vote FN à regarder de près. C'est possible qu'il fasse un retour dans certains exécutifs à Saint-Priest, à Villeurbanne. Donc voilà, c'est ça, ce sera si intéressant à suivre. À Villeurbanne, il y a quand même une guerre entre
avec les écolos qui sont assez forts, voilà, quand même.
Les écolos qui sont très organisés.
Là, le pic de pollution, ça fait un bon
et
bonne campagne.
Le pic de pollution, effectivement. Donc le maire sortant, Jean-Paul Brett, il est pas, il se montre pas extrêmement serein parce qu'il il redoute justement ce vote-là, quoi.
Ok. Alors juste pour finir sur Lyon un petit peu. Le prochain mandat, donc que ça soit probablement au Colomb ou à Var, on verra, mais qu'est-ce que ça va être un petit peu les grands chantiers, les le stade peut-être des Lumières,
alors le stade des Lumières, on peut pas vraiment le mettre en grand chantier puisque les travaux c'est déjà lancé, donc il sera c'est sûr inauguré au maximum en 2016 pour l'Euro. Ça, c'est la première chose. Après, on dit que ce sera le mandat des gares. C'est-à-dire qu'on va refaire la gare Perrache, le centre d'échange de Perrache. Alors, pas la gare en tant que telle, mais en gros, l'idée, c'est plus faire une barrière entre la place Carnot et puis de l'autre côté des voûtes, le cours Charlemagne. Perrache, Pardieu aussi, donc
désenclaver,
faire en sorte que ce soit moins une barrière et que surtout le flot des voyageurs puisse être réparti sur plus de mètres carrés. Donc au lieu d'être ouvert sur deux bords, il y aurait plusieurs côtés d'ouvert, notamment côté la rue Paul Bert, dans ces coins-là. Et puis ça va continuer à se densifier, à se construire, à encore se construire, et notamment ici à Gerland, où la ZAC des Girondins va pousser, c'est plusieurs milliers de logements, où ça va continuer à la phase 2 de la Confluence. Donc il n'y aura pas vraiment de projet 9-9, mais ce sera plutôt la continuation des projets, mis à part les gares, où là, effectivement, ça va quand même changer, je pense, pas mal le quotidien de ceux qui prennent les TER. Ouais.
Les élections municipales 2014 auront lieu les dimanches 23 et 30 mars. Plusieurs questionnements restent en suspens à quelques jours du scrutin. Quelle sera la participation? Quels grands thèmes de société auront été privilégiés par les électeurs? Comment la situation nationale va-t-elle se répercuter sur les élections lyonnaises? Quels seront les scores des différentes listes et notamment du Front National? Enfin, est-ce que les Lyonnais vont plébisciter à nouveau Gérard Collomb ou vont-ils se tourner vers un nouveau maire? À noter les derniers rendez-vous de cette campagne municipale 2014. Jeudi 20 mars à 18h30, un concert de Michael Jones autour de l'équipe de Gérard Collomb au café Cousin Cousine. À 19h, une réunion publique de Génération Lyon à l'espace Elsa Triolet.